BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on entame cette deuxième heure de l'émission et comme à chaque début de demi-heure, bien évidemment, on file sur le marché pour prendre le pouls de la séance du jour. Et c'est Thibaut François que l'on rejoint chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut.
Bonjour Cédric.
Bon, bon pied, bon oeil ce matin. On fait de l'œil au 6003.
Ouais, c'est ça. Le marché se rapproche tranquillement des 6300 points. On gagne un 30. C'est plutôt pas mal. Les taux continuent à remonter tranquillement suite à l'intervention de la BCE jeudi, qui a remonté ses taux directeurs de 0,75. L'OAT se rapproche des 1,30. Et forcément, on a des valeurs plutôt cycliques qui entraînent le marché à la hausse. Donc, on retrouve un petit peu d'optimisme. On retrouve Renault, Alstom, Airbus, Saint-Gobain qui gagnent entre 2,5 et 4% ce matin, qui sont en tête du palmarès. Et on retrouve plutôt des valeurs de croissance qui sont en bas du palmarès, avec des Dassault Systèmes, des Téléperformance et des STM qui sont toutes les trois négatives, alors légèrement négatives, mais jusqu'à 1% de baisse ce matin. Un petit peu d'optimisme sur le marché. On a enfin, on va dire un cadre de la part de la BCE, lutter contre l'inflation de façon vigoureuse. Donc 0,75 points de hausse de taux, ce qui entraîne les taux européens et les taux américains d'ailleurs plutôt à la hausse. On retrouve un Brent qui est autour de 93$ qui se stabilise sur ces niveaux de prix-là, et surtout un euro-dollar qui repasse au-dessus de la parité. Il était tombé en dessous de la parité en début de semaine dernière. On retrouve 1,02 sur l'euro-dollar, donc un dollar qui s'affaiblit un petit peu, et ce qui est plutôt bon pour les actions. Donc un début de séance qui est plutôt dans le vert ce matin sur la bourse de Paris.
Allez, quelques dossiers sur lesquels on jette un petit œil. D'abord Orpea.
Oui, alors Orpea, par contre, on n'est pas vraiment dans le vert. Moins 20% sur Orpea ce matin. On est à 16,72, 80% de baisse depuis le début de l'année. On est toujours dans les agitations depuis le début de l'année sur l'affaire Orpea et la maltraitance dans certains établissements. Orpea a annoncé un profit warning sur la deuxième partie de l'année 2022. Alors, d'un point de vue fondamental, on sait que Orpea va vivre des années et des mois difficiles. C'est évident. Là, on se retrouve avec une marge qui va être moins forte que prévue sur la deuxième partie de l'année. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment les fondamentaux et en tout cas le profit warning qui fasse baisser le titre de 20% aujourd'hui. La main a été prise par les hedges depuis quelques mois, depuis l'affaire au mois de janvier. Donc là, on est vraiment sur des shorts assez importants sur le marché, sur le dossier Orpea. Je pense que ceux qui voulaient sortir d'un point de vue parce que les fondamentaux étaient dégradés, sont déjà sortis depuis longtemps. Donc on est sur un dossier extrêmement spéculatif et les hedges prennent la main et accentuent, on va dire, la pression vendeuse à chaque mauvaise nouvelle sur le dossier Orpea. Et le momentum est toujours défavorable sur le dossier Orpea et le sera dans les prochaines semaines. Maintenant, on attend plus une issue, on va dire, sur peut-être réglementaire ou peut-être une sortie de bourse d'Orpea dans les prochains mois pour que ça puisse réagir. Mais en tout cas, à court terme, d'un point de vue momentum, on est vraiment sur un momentum extrêmement dégradé et des mauvaises nouvelles sur le dossier. Bon. Donc, moins 20%, c'est vraiment la main pour les hedges aujourd'hui.
Et un petit mot rapide sur Atos?
Oui, Atos rebondit encore 6% ce matin. Donc il y a eu une dégradation qui a entraîné le titre au tapis jeudi. C'est Goldman Sachs qui est passé à vendre sur le dossier. Depuis, ça tente un rebond sur Atos. On a Sycomore, une société de gestion parisienne, qui souhaite une démission de son président et surtout des anciens membres du conseil d'administration. Ils sont aussi ne privilégient pas une scission du groupe Atos dans les prochains mois qui serait compliqué. Pour rappel, Atos a vraiment des difficultés à retrouver de la croissance organique sur son activité historique. Est beaucoup plus favorable et en tout cas la croissance est beaucoup plus soutenue sur la partie cybersécurité où il y a des acheteurs potentiels de cette activité. On parle notamment de Thales et d'Orange qui pourraient être intéressés. Donc aujourd'hui, la question c'est est-ce que Atos continue à maintenir ces deux activités au sein du groupe dans les prochains mois, dans les prochaines années, avec une vraie stratégie en mise en place, ou alors il y a une scission et un démantèlement du groupe, ce que ne préconiserait pas Sycomore. En tout cas, ça rebondit et on parle de niveau de valorisation autour d'un milliard, ce qui est bien sûr ridicule pour le groupe Atos, mais aujourd'hui, le momentum est toujours défavorable sur le dossier Atos.
Merci beaucoup Thibaut. Thibaut François pour Fastea Capital, le marché qui prend un 28%, 6291 points. Et nous, on retrouve Stéphanie Collot pour l'Info Éco.
BFM Business, l'Info Éco.
Et à la une, la CVAE sera supprimée en deux temps, en 2023 et 2024. C'est ce que déclare ce matin Bruno Le Maire sur LCI. Le ministre de l'économie table toujours sur une croissance positive l'année prochaine et un déficit public à 5% du PIB. Top départ pour France Travail. Une concertation de deux mois est lancée aujourd'hui. Objectif, réorganiser le service public de l'emploi pour mieux insérer les chômeurs et répondre aux besoins des employeurs. OVH Cloud inaugure aujourd'hui un nouveau data center à Strasbourg. Bruno Le Maire et le commissaire européen Thierry Breton seront présents sur place à la mi-journée. De nouvelles mesures en faveur du secteur devraient être annoncées, notamment pour renforcer la souveraineté numérique. Dans l'actualité entreprise du mouvement chez Orange Bank, Stéphane Vallois est nommé directeur général. Il était jusqu'à présent directeur général délégué. Il prendra ses fonctions dès le 1er octobre. L'Allemagne va tomber en récession en 2023. Le PIB devrait reculer de 0,3% l'année prochaine. C'est ce que prévoit l'Institut IFO. En cause, la forte inflation qui devrait atteindre 9,3% sur l'année. Le rebond de la croissance britannique malgré l'inflation, le PIB progresse de 0,2% en juillet après un recul de 0,6% en juin, tiré notamment par les services. En revanche, les secteurs de la production et de la construction ont reculé sur la même période. Et puis, les États-Unis vont limiter les exportations de semi-conducteurs vers la Chine, ainsi que les équipements nécessaires à leur fabrication. Et ce, dès le mois prochain, selon Reuters. Des lettres ont été envoyées en ce sens aux entreprises américaines concernées, Cédric.
Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot qui nous accompagne chaque matin pour suivre l'Info Éco. Et nous, tout de suite, on retrouve nos deux experts pour Regards Croisés.
BFM Business, BFM Patrimoine, Regards Croisés.
On a deux experts en plateau comme chaque matin pour Regards Croisés. Rachid Medjaoui pour Louvre Banque Privée. Bonjour Rachid.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous. Et Damien Dirix pour Exane Asset Management. Pardon. Bonjour Damien.
Bonjour Cédric.
Bon, tout va bien ce matin, mais on ne peut pas dire qu'il en était de même au cours des jours écoulés. Comment vous prenez le pouls de cette tendance de marché? C'est vrai que la période est très particulière. On a l'inflation, on a les banques centrales qui accélèrent leur marche en avant et on va en parler longuement. Mais voilà, comment est-ce que vous jaugez les réactions de marché?
Écoutez, nous on fait le pari déjà depuis un certain temps que il faut rester plutôt vigilant voire prudent, mais dans un marché qui va rester dans cette fourchette en gros entre 6000 et 6600 pour parler simplement sur le CAC 40. La raison est que on connaît les vents adverses. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire tous les sujets potentiellement négatifs sont aujourd'hui bien, je dis pas bien intégrés par le marché, mais en tout cas bien, bien cernés. L'autre bonne nouvelle, c'est que, bien entendu, on a le sentiment, avec un certain nombre d'enquêtes, que beaucoup d'acteurs, comme nous d'ailleurs, sommes plutôt prudents. Donc, on a un positionnement. Voilà, les gens ne sont pas complètement complaisants. Mais de l'autre côté, quand même, les choses sérieuses, quand même, sont encore devant nous. Des banques centrales par paquet de 0,75 BP à chaque fois qu'elles bougent. On va voir la Fed, elle va le faire certainement. Enfin, tout ça, plus les incertitudes sur comment nous allons passer, bien entendu, l'hiver du point de vue avec le chantage énergétique venant de M. Poutine. Bon, voilà, tout ça fait qu'on peut pas non plus...
À 6003 ce matin, on est au milieu de la fourchette,
et voilà. Et donc, on essaye, quand on se rapproche en dessous de 6002, 6100, de réduire notre côté prudent, mais on le réduit pas complètement, parce qu'encore une fois, la messe est loin d'être vite dite.
Comment voyez les choses chez Exane?
Un peu pareil, c'est-à-dire que le marché reste un peu perdu. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'on connaît bien le mur des peurs, on sait bien quelles sont les peurs inscrites sur le mur, et on ne sait pas encore exactement si on peut passer au-dessus de ces peurs, passer le mur des peurs qui permettrait de remonter. Et effectivement, du coup, on va reparler de tous les sujets qui stressent le marché, hein, mais ils sont très clairs au moins. Marché un peu perdu pour moi entre les taux continuent de remonter, enfin, sont remontés très clairement. On est remonté très haut. Regardez le taux réel américain, il est passé au-dessus de là où il était au mois de juin quand on s'était fait déjà peur. Et du coup, les valeurs défensives qui, elles, logiquement, seraient plutôt à même d'être sympathiques dans ce genre d'environnement, bah, elles sont attaquées par l'effet taux. Et inversement, les valeurs cycliques, bah, forcément, dans un environnement où on vous parle de récession tous les 4 matins et de révision en baisse des prévisions de bénéfices qui n'est toujours pas arrivée, et ben, évidemment, vous êtes un peu perdu parce que d'un côté, je n'y arrive pas et de l'autre, non plus. Donc voilà pourquoi le marché est entre deux eaux. On avait vu qu'il était remonté assez nettement mi-août, après le point bas de août, il était remonté jusqu'au début septembre. On va dire, beaucoup de gens étaient un peu surpris par cette hausse. Et en fait, je pense que c'est le positionnement qui expliquait ça. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il y a peu de monde dedans, bah, ça monte assez facilement. Et inversement, quand on a les mauvaises nouvelles, Nord Stream qui se referme, tout de suite, on rebaisse énormément. Et après, on reprend notre souffle sur ces peurs. Est-ce que vraiment, c'est une catastrophe pour l'hiver? On voit que finalement, ça, c'est jouable, etc. etc. Donc, c'est là où on est aujourd'hui.
Voilà donc le cadre posé. Intéressons-nous quand même à nos banquiers centraux. D'abord, on attend bon, la réserve fédérale, l'inflation. On va voir après, on aura le chiffre inflation américaine cette semaine. Mais d'abord, la BCE. Comment est-ce que vous avez vécu cette maxi-hausse, finalement? Est-ce que l'économie européenne va pouvoir échapper à la récession avec un tel traitement? Est-ce qu'il y a une question autour de l'euro? Enfin, voilà. Comment est-ce que vous positionnez sur la rive européenne, déjà?
Je crois qu'on a compris que la BCE ira jusqu'au bout. C'est-à-dire que la récession n'est pas... Elle ne cherche pas forcément, bien entendu, à mettre l'économie en récession, parce que nous n'avons pas, contrairement aux États-Unis, encore des pressions salariales à ce point où il faudrait refroidir fortement l'économie, même si j'observe que nous sommes sur les plus bas en termes de taux de chômage dans la zone euro. Donc la BCE a quand même des arguments. Donc il faut la prendre au sérieux, c'est-à-dire que le message est... il faut ancrer les anticipations d'inflation. Le pire pour elle, ça serait que finalement, dans 3 mois, 6 mois, on ait justement cette fameuse boucle prix-salaire qui devienne aussi problématique aux États-Unis et qu'elle soit obligée de frapper encore plus fort. Donc je pense que 75 BP, ils vont le faire. Alors, il y a l'inflation, mais je crois qu'il ne faut pas oublier que toutes les banques centrales aujourd'hui travaillent dans un nouveau corpus qui, en fait, s'est mis en place depuis le Covid. Le Covid, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené ce fameux passage de témoin qu'on a appelé de nos voeux, vous vous souvenez, pendant très longtemps, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. La politique monétaire était à bout de souffle, il fallait que la politique budgétaire prenne le relais. Le Covid a été le bon prétexte pour que les États reviennent au centre du jeu, et ils sont revenus massivement, et ils ne veulent plus le quitter, parce que après le Covid, on a la crise ukrainienne, les boucliers énergétiques. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'habitue tous à raisonner sur le fait que les banques centrales s'aperçoivent que finalement une grosse partie du job va être fait par les politiques budgétaires, et donc à partir de là elles doivent normaliser, revenir à des situations dirais normales de leur politique. Mais n'oublions pas que tous les taux zéro, les quantitative easing, c'était pour une situation exceptionnelle. Si dorénavant on pense que le job va être fait en grande partie par les politiques budgétaires assez expansionnistes, eh bien elles doivent remonter le plus vite, c'est ça. Donc il faut, il y a pas que l'inflation, voilà. Donc je pense que du côté des banques centrales, il faut s'habituer encore pendant quelques temps, sauf divine surprise sur les prix des matières premières. On va voir le chiffre d'inflation américain cette semaine, mais il est peu probable que nos banquiers centraux lèvent le pied dans les prochaines semaines, voilà.
Comment vous positionnez-vous effectivement face à cette BCE, face à cette question de la récession, face à la question de l'euro aussi, qui va nous amener à comparer les deux?
Là, le message était plus que clair du côté de Francfort cette semaine, hein, c'était évident. Donc 75 centimes, on l'avait bien compris. Et la suivante, il y a quand même une très très forte chance que ce soit la même. Elle veut vraiment, je suis d'accord, ancrer les anticipations, parce que le problème de la BCE, c'est que la surchauffe qu'on a eu liée à l'inflation, très clairement en zone euro, elle est liée à l'énergie. Or, monter les taux, ça ne vous fait pas réouvrir Nord Stream.
Bien sûr.
Voilà. Monter les taux, peut-être plus tard, en cassant la demande vraiment, ça peut vous faire baisser la demande énergétique globale, mais franchement, là, il faut y aller violemment. Donc, son vrai problème, c'est exactement ce que vous avez évoqué, c'est le sujet des boucles prix-salaire. Pour le moment, dans leurs enquêtes, on ne les voit pas. franchement, on les voit pas. Par contre, quand vous parlez à des boîtes, j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai rencontré pas mal de sociétés, très clairement, leur vision, et notamment les Allemands, c'est très clair chez eux, la vision l'année prochaine, c'est qu'il va falloir aligner, et c'est du 5-6% qu'il va falloir augmenter l'année prochaine pour que les salariés puissent
s'y retrouver.
Donc, ce qu'elle ne veut pas, c'est ça. Parce que la suite de ça, quand vous interrogez la société en disant « Oui, vous avez payé 5-6% de hausse de salaire, c'est 30% de vos coûts, ça fait quand même une facture lourde. » Il fait « Oui, mais en fait, on va le passer dans les prix. » Et donc, cette boucle prix-salaire, salaire-prix, c'est exactement ce que ne veut pas voir la BCE arriver. Parce que dans ce cas-là, vous ne maîtrisez plus rien. Et là, il faut y aller très très fort pour casser effectivement la boucle. Et ça, elle ne veut pas le faire. Donc, elle veut en créer des anticipations. C'est exactement ce qu'elle a fait. Deuxième point, vous l'avez évoqué, c'est le sujet de l'euro. Le free fall de l'euro, la chute libre en dessous de la parité, elle a un problème. Alors elle nous aide sur les exports, même si pour le moment, c'est pas encore la joie partout dans le monde, donc on peut pas en profiter. Elle nous fait très 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 mal sur ce qu'on importe, en dollars, évidemment, toute l'énergie. Donc il y avait un gros sujet là, toute l'inflation importée, c'est-à-dire que 10% d'euro-dollar qui bouge par rapport au Brent, si lui il monte de 30, ça vous fait 40 à la fin.
Eh oui, c'est ça.
Donc il fallait absolument casser ça. Et le fait de dire, nous aussi, on est très sérieux sur le sujet des taux d'intérêt, et ils vont monter, et ne vous attendez pas à ce qu'on s'arrête au taux neutre, moi c'est ce que j'ai quand même compris jeudi dernier, ça veut bien dire que, et vous l'avez vu, l'euro-dollar depuis est repassé au-dessus de la parité, donc il y a eu quand même un petit effet là-dessus, même si c'est pas leur target principal, ça a eu quand même au moins un coup d'arrêt sur ce sujet.
Donc, en partant de cette parité euro-dollar, ça nous amène évidemment à comparer avec la Banque Centrale Américaine, qui avait déjà frappé fort du poing sur la table et qui, elle aussi, en tout cas dans le discours de Jackson Hole, on l'a bien compris, ne compte pas non plus baisser la garde.
Non. Franchement, vous avez vu dans le Wall Street Journal, il y a un journaliste qui parle, en tout cas qui a l'œil. Donc ça a été téléguidé, donc 75 centimes, serait étonnant qu'il ne le fasse pas. La grande question aujourd'hui qui anime le marché en fait sur la réserve fédérale, c'est plutôt ça s'arrête où ? Si ça s'arrête autour de 4% ou légèrement au-dessus, ça va, le marché l'a déjà intégré, on l'a déjà connu au mois de mai, puisque les anticipations étaient montées au mois de mai jusqu'à 4,25. Donc on a déjà visité, donc le marché peut se faire peur, on peut revisiter les points bas du mois de mai sur ce type de nouvelles, mais c'est pas disruptif. En revanche, si jamais on s'aperçoit qu'en fait 4% ça sera pas suffisant et que le niveau d'équilibre il est plutôt au-delà de 4,5 voire plus, là clairement le marché n'a pas intégré ça. C'est ça l'enjeu pour la réserve fédérale. Alors est-ce qu'elle va dépasser les 4 ou pas, on n'en sait rien. À aujourd'hui, on a l'impression quand même que c'est une probabilité qu'on ne peut pas complètement écarté. En fait, ça va dépendre de quoi ? Alors, bien entendu, ça va dépendre de l'inflation, ça va pas vous aider, voilà. Mais là où ça devient complexe, et là où les marchés, je crois, le rappel à l'ordre s'explique, c'est que la Réserve fédérale communique, en fait, sur ce qu'elle appelle les conditions financières. C'est-à-dire que c'est pas simplement les taux. Il y a le réduction de son bilan qui va commencer, là aussi. Est-ce que le marché va bien l'intégrer ou pas ? Et puis, il y a tous les autres, c'est-à-dire les obligations privées, les rémunérations qui sont fortement écartées, et le S&P 500, les actions. Et donc, c'est pour ça que la dernière chose dont a besoin la Réserve fédérale pour finir son job et atterrir l'économie américaine, atterrir l'inflation, c'est qu'on ait un rallye durable des marchés actions d'obligations. Et donc, c'est pour ça que la hausse ne peut pas aller très très loin pour nous et que toute hausse un peu forte comme celle du mois d'août, il faut plutôt la vendre. Un petit mot sur l'euro. L'euro est devenu plus corrélé au gaz, au prix du gaz, qu'au taux d'intérêt. C'est-à-dire que si vous regardez juste un modèle de différentiel de taux d'intérêt, l'euro devrait être plutôt au-dessus de 1,05. Donc on voit bien que ce qui empêche l'euro de remonter plus, parce qu'en réalité, la BCE va devenir plus agressive et va rester plus agressive en différentiel que la réserve fédérale. Donc ce qu'il faut aujourd'hui pour que l'euro remonte, ce qui serait une bonne nouvelle, c'est que les risques de récession dure et de rationnement dur sur l'énergie se calme et qu'on passe également les élections italiennes sans trop d'embûches, parce que ça aussi, si jamais Draghi est parti, si on a une union européenne qui soit pas soudée par rapport aux différents
qui replonge
problèmes, ça va pas aider l'euro.
Ouais. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier les aspects politiques européens comme les aspects politiques américains d'ailleurs.
Vous avez eu les élections en Suède ce dimanche. Voilà, donc on a la suite, c'est le 25 septembre. Là, je reviens, la Fed. Là aussi, effectivement, c'est télégraphié, Bullard a lâché, ce serait plutôt 75 centimes. C'est une évidence, ils veulent y aller, et on l'a dit tout à l'heure, leur problème n'est pas le même que celui de la zone euro. Eux, ils ont aussi un problème de chômage et d'inflation qui est salariale, qui est déjà là. Ça fait quand même six mois que tous les mois, l'inflation, elle est salariale, elle est à plus 5,5. Vous avez des enquêtes où vous êtes plutôt à 7. Donc, oui, il y a un vrai sujet. Il l'a répété plein de fois. Hein. Quand on a dit, oui, mais les US sont déjà en récession. Hein. Techniquement, effectivement, le PIB, on peut y revenir, mais ces techniques étaient dans le rouge. La réalité, il dit, oui, d'accord, c'est dans le rouge, mais la réalité, c'est que le marché du travail est toujours beaucoup trop fort. Donc, leur sujet, c'est ça. Est-ce que ce que le marché veut chercher auprès de la Fed, c'est le fameux pivot. C'est le moment où la Fed va dire, OK, je sais où je m'arrête. Et je vous annonce que je vais m'arrêter plutôt par là. Il a été espéré au début de l'été. Le discours du Jackson Hole a bien douché tout le monde sur le fait qu'il n'y avait pas de pivot. Les chiffres d'inflation ont aidé à ce que ce pivot ne soit pas en vue pour tout de suite. Et alors, effectivement, on va voir, parce que techniquement, en termes de base de comparaison, l'inflation qu'on va voir devant nous, en théorie, puisqu'on n'a pas de réaccélération et qu'on a même des baisses sur pas mal de sujets, hein, le prix de l'acier, le prix du fret, de nombreuses commodities sont en train de redescendre.
Donc on devrait formaliser le pic.
De la désinflation, ça va commencer à arriver. Mais la Fed a dit, c'est pas un oiseau ne fera pas le printemps. Et du coup, il va falloir attendre un moment qu'ils soient sûrs qu'il y ait de la désinflation. Et moi, pour moi, ils seront sûrs de ça quand ils verront les données du marché du travail aller dans un sens un peu moins favorable aux salariés. Malheureusement pour certains, mais la réalité c'est ça, c'est qu'ils veulent voir notamment un petit indice qu'ils regardent de temps en temps, je pense, c'est ce qu'ils appellent le quit rate. Vous savez, il y a une enquête tous les mois qui est faite aux États-Unis pour essayer de mesurer, et on a toujours un nombre très important de gens qui switch, qui change de boulot, parce qu'en fait, le boulot à côté, il est quand même bien mieux payé, et il y a toujours cet attrait salarial. Bon. Donc tant qu'on a ce niveau-là, la Fed elle va arrêter dans ce sujet, et donc on va chercher à courir tous les trois mois au pivot.
Bon, voilà donc pour nos deux grandes banques centrales qui se sont donc mises en action, l'une n'allant pas sans l'autre, notamment à travers le rapport entre l'euro et le dollar. Et puis il y a une troisième zone qui est intéressante en ce moment, c'est la Chine, puisqu'on est là aussi avec une banque centrale, là aussi avec un État qui tente de relancer sans vraiment convaincre, une situation économique un peu dans le marasme, avec une période là aussi politique. Alors politique, on va mettre quelques guillemets, mais avec le Congrès. Voilà. Comment est-ce que vous voyez la Chine? Vous êtes inquiet? Vous êtes prudent? Vous êtes attentif? Vous êtes...
Alors, on avait joué la réaccélération de la Chine, mais on avait compris qu'il fallait le jouer de manière extrêmement prudente, parce qu'on avait eu un marché boursier chinois qui avait violemment sous-performé, comme vous le savez, en 2021. Et donc, on se disait, et on n'a pas eu tort, que ça allait repartir un petit peu. Pourquoi on est allé très graduellement, c'est parce qu'on avait peur de deux choses. D'abord, d'une lame de fond qui est la déflation immobilière. Ça, on l'a dit souvent sur ce plateau. Je répète, je peux me tromper, mais quand je relis mes livres d'histoire, j'ai jamais vu un pays réussir un dégonflement de bulle immobilière sans casse. Alors la bonne nouvelle pour les Chinois, contrairement aux Japonais, c'est que tous les actifs face de l'immobilier, la plupart sont quand même dans des banques d'État, et donc ça peut être géré par les réserves qui sont, voilà, ils ont passé 30 ans à monter des réserves, ils vont passer les 10 prochaines années à les dépenser pour sauver leur système financier. Il y a la stratégie zéro Covid, et puis je reviens effectivement, quand vous avez dit il n'y a pas vraiment de sujet politique, en fait il y en a un, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait le président chinois est attaqué un peu de partout, et notamment quand on écoute son premier, la grande question par exemple après octobre, c'est pas Xi va être intronisé j'allais dire empereur à vie, président à vie, mais la grande question c'est quel va être le premier ministre. Et ça va être très intéressant, parce que c'est de là qu'on va voir si, en fait, il allait, si, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est libre ou pas libre? Parce qu'aujourd'hui, son premier ministre, il est pas tout à fait d'accord, notamment sur la stratégie zéro Covid. Donc, il y a un sujet, Ce qu'il faudrait pour qu'on j'allais dire qu'on accélère, parce que nous on a stoppé notre réinvestissement sur la Chine, on s'est même demandé pour revendre ce qu'on avait acheté. Bon, finalement on a gardé parce qu'il y a quand même des mesures de relance, ils ont des taux réels positifs, donc ils peuvent ils sont en avance budgétaire, donc ils peuvent faire un bazooka budgétaire s'il le faut, mais ça on y verra plus clair après octobre, après justement pour voir un peu quel va être l'équilibre, pour savoir, on espère que c'est pas le cas, pour savoir si on n'est pas rentré, si Chine n'est pas vraiment Mao, parce que ça fait plusieurs années qu'on le dit, on va peut-être s'apercevoir que c'est vraiment Mao, quoi. Et dans ce cas-là, je pense que relance budgétaire ou pas, il faudra faire très attention en termes d'investissement.
Bon. Votre regard, vous, sur la Chine qui...
La Chine, malheureusement, c'est un pas en avant et deux en arrière, parce qu'en fait, j'allais dire, vous voyez, le sujet zéro Covid reste, pour quand on parle avec les autres, les entreprises, ça reste le truc qui est le plus prégnant. C'est-à-dire qu'il y a toujours... un, le stress que ça recommence, et deux, en fait, ça recommence de temps en temps. Hein. La preuve,
oui, on a encore vu.
Donc, qu'est-ce qu'on voit dans les chiffres
Les dizaines chinois de millions de gens confinés.
Exactement. Ce qu'on voit dans les chiffres chinois, on voit les indicateurs de services qui repartent relativement fort, comme on l'a vu à chaque fois chez nous quand il y a eu relâchement des sujets Covid. Donc ça, c'est très fort, hein. 55 points, c'est plutôt pas mal. Par contre, on voit très bien que la dynamique manufacturière, elle reste sous cocon. On reste juste à l'entrée des 50 points, hein, qui nous différencient de la croissance et du ralentissement. C'est pas réparti en Chine, très clairement. Complètement d'accord sur le fait que si la politique, ça joue quand même en Chine. Parce que effectivement, je suis complètement d'accord. Est-ce que Li Keqiang sera toujours là après le 16 octobre? Ça, c'est une des grosses questions et c'est une des choses qu'on va regarder. Complètement d'accord, il n'y a pas de surprise. Et aussi d'accord sur le fait qu'ils ont de l'armement lourd encore disponible. On ne les a pas vus dépenser des milliards et des milliards pour relancer. Ils n'avaient pas relancé. Ils sont en politique zéro Covid. Vous ne relancez pas une économie qui est fermée.
Et qui est à l'arrêt, oui.
Et pareil du côté monétaire. On les a vus bouger, mais par les petits bouts de 10 centimes par-ci sur le taux 1 an et 5 ans, c'est pas
donc
du tout...
Donc vous êtes quand même pas très convaincu pour le moment des petites mesures mises en œuvre.
À partir du moment où... Non, ce n'est pas convaincant du tout. Même sur la partie bulle immobilière, ils ont pas avancé... sérieusement dans la résolution du problème. Donc, ça reste devant nous, avec un espoir qui est, ils ont de quoi redémarrer la machine s'ils arrêtent leur politique zéro Covid et si enfin ils vaccinent, etc. Mais toujours avec ce doute de savoir s'il aura vraiment envie de le faire et comment ça va se passer. Donc, ça reste une petite inconnue.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé vos regards croisés sur cette actualité. Donc Rachid Medjaoui pour Louvre Banque Privée et Damien Derix pour Exane Asset Management. Dans un instant, un détour par les marchés, puis on continue à vous donner un max de conseils, notamment en termes d'idées de fonds. À tout de suite.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file sur les marchés, c'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure. Andrea Twini suit tout ça pour nous. On a l'impression que on a le moral, mais que les 6003 se sont un peu refusés.
Oui, c'est vrai que pour le moment, c'est un niveau de résistance qui semble tenir. On en a deux autres au-dessus, 6320, 6345. Voilà, c'est les niveaux à surveiller techniquement si le marché poursuit sur son rebond. Bon, la première objectif, ça serait essayer de s'affranchir de cette zone des 6300 points. Voilà, pour le moment, c'est un peu plus difficile, mais il y a une grosse partie de la progression qui s'est faite en début de séance. Il faut pas non plus oublier et rappeler le contexte de progression déjà depuis la semaine dernière où on a connu plusieurs séances de hausse sur le marché. Alors certes, des petites hausses, mais quand même, on a une dynamique qui est un peu plus porteuse et un marché qui reprend petit à petit goût au risque. Alors on a plusieurs événements à risque qui sont passés, la BCE notamment. On aura la Fed la semaine prochaine et notamment demain un événement assez important avant la Fed, dernier rendez-vous important avant la Fed, les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Alors on devrait pas avoir de grosses surprises, hein, même peu importe on va dire ce scénario qui se profilera demain, on devrait quand même maintenir le cap d'une hausse des taux de la part de la Fed. En tout cas c'est le scénario qui est porté par plusieurs membres de la Fed et du côté de la BCE aussi. On a eu des indications pendant le week-end qui laissent à penser qu'on aurait de nouvelles hausses de taux et qu'on commence on va dire un cycle de hausse de taux qui pourrait du coup continuer continuer, se poursuivre lors des prochaines réunions. Donc là aussi, on a plusieurs indications, des indications qui ont d'ailleurs profité à l'euro. On a vu une forte progression de l'euro ce matin, suite, on va dire, à ces propos qui ont été tenus pendant le week-end, notamment par le patron de la Bundesbank. On a un euro qui est au contact, là aussi, des 1,02. Donc aussi une progression qui s'est faite depuis la semaine dernière et cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Le frein, ou en tout cas les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux indices, déjà, c'est la capacité de poursuivre sur ce rebond technique, jusqu'où on pourra aller. Est-ce que les résistances qu'on a fixées, elles vont tenir, ou est-ce qu'on a cette capacité d'aller plus loin? Et puis surtout, il y a un autre aspect qu'il faut surveiller, c'est les taux. On a vu une belle progression des taux, notamment sur le côté du 10 ans américain, au-dessus des 3,30. On n'est pas loin d'une résistance à 3,50, et c'est vrai que ce niveau-là nous rappelle les niveaux qu'on avait connus au mois de juin. Et à cette période-là, il y avait une faiblesse, on va dire, sur les indices. On a connu des points bas sur les indices au mois de juin, et donc il faudra vraiment essayer de mesurer la capacité des indices à poursuivre leur progression dans un contexte de taux haut. Donc ça sera peut-être un test et un défi pour les prochaines séances. Mais c'est vrai que pour le moment, on a quand même globalement un début de séance plutôt positif, très positive même sur le CAC, avec des valeurs financières qui tirent la cote vers le haut. Et puis voilà, donc c'est 6,300 pour le moment en plafond de verre, mais au-delà, on a des résistances techniques un peu plus importantes, comme je l'ai rappelé, 6,320, 6,345, qui seront intéressantes à surveiller et qu'on pourrait aller tester dans les prochains jours.
Merci beaucoup Andrea, Saxo Bank qui nous accompagne chaque lundi. Le marché parisien donc dans le vert ce matin, plus 1,23, 6,288 points.
BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond.
Et c'est Frédéric Lorenzini qui nous accompagne comme chaque lundi pour Patrimoine 24. Bonjour Frédéric.
Bonjour Cédric.
Vous nous parlez du retour des fonds à échéance. De quoi s'agit-il exactement?
C'est vrai qu'on assiste à un retour des fonds à échéance. Je donne deux exemples. À coup sur coup, il y a Arbevel, une maison française, et puis Sycomore AM qui mettent sur le marché des fonds à échéance. Ça rappelle la grande époque, vous vous souvenez, 2008, il y avait la crise financière, les marchés actions étaient massacrés, les marchés obligataires étaient massacrés. Et à l'époque, en 2008-2009, il y a plein de qui, de façon assez opportuniste mais de façon astucieuse, avait créé des fonds à échéance, et en achetant du papier, des obligations décotées, et en se disant on va porter ces obligations décotées jusqu'à échéance, jusqu'à remboursement, et là elles devraient être remboursées à 100% de leur valeur nominale.
Justement, rappelons ce que c'est qu'un fonds à échéance.
Alors, un fonds à échéance, ça s'appelle aussi un fonds obligataire de portage. Normalement, sur un fonds à échéance, il n'y a pas d'arbitrage. Nous sommes en 2022, vous achetez des obligations qui sont décotées et vous prenez des obligations qui seront toutes remboursées à peu près au même moment, en 2028, en 2029. Vous mettez ça en portefeuille et puis vous portez. C'est une stratégie buy and hold. On achète et on porte. Et ça, il faut le faire sur du papier massacré. Donc, le concept, il est simple. On achète et puis on porte. On achète tant que ce soit remboursé au pair, à 100% de la valeur nominale. La difficulté, c'est qu'il ne faut pas se tromper de papier.
Bien sûr. C'est quoi une obligation décotée ou...
Je vais vous donner un exemple concret.
Massacré, comme vous avez dit.
Je vais vous donner un exemple concret. L'obligation Crédit Agricole. Crédit Agricole, c'est une belle signature. Coupon 1,40%. Échéance 28 juillet 2031. L'obligation cote à 78% de sa valeur nominale. Sur les obligations, on ne cote pas les obligations comme les actions avec une valeur absolue, on cote en pourcentage de la valeur nominale. Donc, cette obligation, elle cote 78,9% de sa valeur nominale. Ça, c'était le cours hier après-midi quand j'ai préparé cette chronique. Donc, il y a une décote de 18%. Ça donne un rendement actuariel de 4,43, parce que cette obligation, si tout se passe bien, si Crédit Agricole ne fait pas faillite, cette obligation, en 2031, elle va être remboursée à 100% du nominal. C'est ça, des papiers. Donc, faut pas que ça fasse défaut entre-temps. Faut pas
c'est ça. Le truc, c'est qu'il ne faut pas, entre le moment où on a acheté et le moment où on a conservé, entre guillemets, pour arriver à l'échéance, il ne faut pas que l'émetteur fasse faillite ou fasse défaut.
Oui, je vais vous donner un autre exemple qui est intéressant. Alors là, il s'agit d'une obligation convertible. Une obligation convertible, c'est une obligation qui est susceptible d'être remboursée soit en numéraire, soit en action. C'est la Corian 0785, échéance 6 mars 2027. Hier après-midi, enfin ce week-end, ça cotait 64, 78, 65%. Okay. Donc c'est vrai que Korian, ça a été un petit peu, on le rappelle, ça fait des résidences seniors, ça a été un petit peu plombé par l'affaire Orpea. L'action sur un an est passée de 31 à 13 euros. Donc c'est là, on voit bien qu'il ne suffit pas de prendre du papier des côtés et de le mettre en portefeuille. Encore faut-il qu'on ait une confiance assez forte sur la capacité de l'entreprise à traverser les crises et à rembourser in fine.
Alors, les deux produits que vous évoquiez au début, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Alors, Sycomore AM met sur le marché un Syco Yield 2026. Donc, 2026, l'échéance, c'est en 2026. Donc, le gérant met en portefeuille des obligations qui seront remboursées au cours de l'année 2026, peut-être quelques mois avant, quelques mois après. Yield, ça veut dire high yield, c'est du haut rendement. Et là, on nous indique, et le gérant indique, qu'il anticipe, je cite, un rendement brut annualisé à maturité de plus de 5%.
Pas mal.
Sous réserve que tout se passe bien. Hein, parce qu'on high yield, c'est du haut rendement. Qui dit haut rendement dit haut risque. Donc avec un risque de défaut qui n'est pas négligeable. Et puis l'autre qui est mis, l'autre fonds échéance qui est mis sur le marché, c'est Arbevel qui lance un Pluvalca Credit Opportunities 2028. C'est la même philosophie.
Est-ce que ça vaut le coup de prendre part à ces propositions?
Alors, on est clairement dans une fenêtre de tir, parce que vous le savez, le cours des obligations évolue de façon symétrique par rapport aux taux. Donc quand les taux baissent, le prix des obligations monte. Quand les taux montent, le prix des obligations baisse. Là, depuis quelques temps, on a vu que quand même les taux montaient. Donc de façon mécanique, ça pèse sur le prix des obligations. Donc clairement, on est dans une fenêtre de tir. Moi, j'aime bien le buy and hold parce que c'est une stratégie très lisible. On a deux maisons entre Arbevel et Sycomore AM qui sont des maisons sérieuses. Donc oui, je pense que ce type de stratégie, c'est de la diversification. En ce moment, c'est pas facile de trouver des idées d'investissement, et ça se regarde.
Frédéric Lorenzini qui nous accompagne régulièrement pour quelques idées de fonds. Merci Frédéric, à la semaine prochaine. Le marché parisien lui progresse toujours d'un 22%, 6 287 points. Ailleurs en Europe, on grimpe aussi, plus 1,43 pour l'Eurostock 50, et puis l'Eurodoll est à 1,0166.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et comme chaque lundi, c'est Christian Fontaine pour Le Revenu qui répond à toutes vos questions. Prêt, Christian?
On y va.
Si vous voulez nous écrire, notre adresse mail reste à votre disposition, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et on attaque, Christian, avec cette question de Manon, qui vous entend souvent vanter les mérites du plan d'épargne retraite, le fameux PER, et elle se demande quel est le montant exact de l'avantage fiscal.
Alors bonne question Manon, effectivement le plan d'épargne retraite c'est un bon levier pour réduire vos impôts, surtout si vous avez autour de la cinquantaine et que vous êtes cadre, voire cadre supérieur ou cadre dirigeant. Le hic c'est que le montant de l'avantage fiscal n'est calculé nulle part, vous n'allez le trouver ni sur la déclaration de revenus que vous avez remplie au mois de mai, ni sur l'avis d'imposition que vous avez reçu cet été. C'est à vous contribuable de connaître la loi et de sortir la calculette. Alors, comment faire pour connaître l'avantage fiscal lié à ce placement, à ce produit d'épargne retraite? Donc, sur le plan un tout petit peu technique, donc c'est pas une réduction d'impôt, c'est une déduction fiscale. Donc, vos versements avec plafond viennent en déduction de votre salaire imposable ou, par exemple, de votre pension, plutôt de vos revenus d'activité. C'est un placement pour préparer votre retraite. En fait, très concrètement, vous devez calculer combien vous allez payer d'impôts sans ce versement. Et puis après ça, vous devez effectuer un autre calcul, combien vous allez payer d'impôts si vous alimentez un PER. Et puis le montant de l'avantage fiscal sera tout simplement la différence entre ces deux simulations. Il y a moyen d'aller plus vite. Pour 90% des gens, c'est tout simplement de connaître votre taux marginal d'imposition. À la plupart des cas, ils sont à 31 ou à 41%. Pourquoi je dis que c'est une façon d'aller plus vite pour 90% des contribuables? Parce qu'il y a des contribuables qui sont à cheval entre deux taux d'imposition. Donc, qui vont défiscaliser une partie à 41%. Donc, ça veut dire que s'ils versent, par exemple, 10 000 euros, ils vont verser, ils vont défiscaliser, par exemple, 5 000 euros sur la base d'un taux à 41%. Donc, ça fera un peu plus de 2 000 euros d'économie d'impôt. Et 5 000 euros à 30%, ça fera 1 500 euros d'économie d'impôt. Voilà. Donc, oui, il y a un petit calcul à faire. Le plan d'épargne retraite est une super astuce pour réduire ses impôts et pour préparer votre retraite en toute légalité. Bien sûr, si vous faites partie des 50% de Français imposables, parce que sinon, le PER n'a aucun intérêt. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où c'est, comme c'est une déduction fiscale et pas une réduction d'impôt, ben, il y a un petit calcul à faire pour savoir combien, quel est le montant exact de l'avantage fiscal pour votre profil, Manon.
Bon, et donc si on paye des impôts, c'est intéressant. Si on n'en paye pas,
effectivement. Mais si on paye des impôts, c'est vraiment très intéressant. Alors, on va faire un calcul un peu tout simple. Si vous, alors, c'est des sommes relativement importantes, mais c'est parce qu'elles sont rondes. Si vous gagnez environ 100 000 euros par an, ben chaque année, vous pouvez déduire 10 000 euros. De votre revenu imposable. Bon, et si vous êtes dans la tranche à 41, ça vous fait quand même 4 100 euros d'économie d'impôt par an. C'est pas négligeable. Surtout que c'est hors plafonnement des niches fiscales. Hein, puisque vous savez que depuis quelques années, l'ensemble des avantages fiscaux sont plafonnés à 10 000 euros. Bon, et là, on est en dehors du...
Il reste quelques niches qui ne sont pas dans
voilà,
le plafond.
Voilà, qui ne sont pas dans ce plafond. Donc, c'est potentiellement très intéressant. Et on parle souvent sur votre antenne de... C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de trouver des bonnes pistes pour investir. Et pour investir, il faut un effet de levier aujourd'hui. Et là, vous avez avec le PER un effet de levier fiscal, hein, puisque vous allez payer moins d'impôts et cette économie d'impôts, vous allez les placer. Alors, le seul petit bémol, hein, c'est que le PER, les sommes qui ont fait l'objet d'un avantage fiscal à l'entrée, ben, sont taxées à la sortie, donc au moment de la retraite. Donc, l'idéal, c'est d'être moins imposé à la retraite que vous ne l'êtes en période d'activité, ce qui arrive, mais pas toujours, mais ce qui arrive régulièrement.
On dit que pour optimiser le PER, il faut baisser de deux tranches.
Alors, deux tranches, c'est rêvé. C'est très théorique, les deux tranches. Hein. Je voudrais voir des simulations précises. Déjà, une tranche, c'est déjà pas mal. Un certain nombre de cadres en fin de carrière sont à 41%. Ils peuvent, à la retraite, être plutôt à 30%. Donc, dans ces cas-là, ils baissent d'une tranche. C'est déjà pas mal. Pour se retrouver de 45 à 30%, par exemple, ou de 30%, de 41 à 11% de mémoire, il faut quand même avoir une sacrée chute de revenus.
Voilà donc quelques indications et éléments de réponse, Manon, sur ce montant de l'avantage fiscal. Le maître mot de Christian, c'est sortez votre calculette. Pierre a ouvert un PA en 2002 et il se dit, si je décide de faire mon premier retrait, à quel prélèvement serais-je soumis ?
Alors Pierre, il a compris que les gains réalisés dans le cadre d'un PEA, hein, donc c'est de l'emplacement boursier, donc soit des dividendes ou des plus-values, eh ben, les prélèvements sociaux, bon, si on a son plan depuis plus de 5 ans, déjà il n'y a pas d'impôt, hein, c'est déjà une bonne nouvelle. Et par contre, on passe par la case prélèvements sociaux. Et les prélèvements sociaux, contrairement aux gains que vous pouvez réaliser sur un compte titre ordinaire, ben vous ne passez pas par la case prélèvements sociaux à chaque fois que vous vendez des titres ou que vous encaissez un dividende, mais uniquement en cas de retrait. Bon, lorsqu'on a dit ça, le hic, c'est que les modalités de calcul sont franchement d'enfer. En fait, la formule de calcul des prélèvements sociaux au sein du PEA, ça prend deux pages, plus de deux pages de formules mathématiques. Il faut faire confiance à la banque. Il faut éventuellement demander à la banque une simulation du montant des prélèvements sociaux à payer. Il faut quand même comprendre un petit peu la mécanique. En fait, le montant des prélèvements sociaux, ça dépend de la date à laquelle vous avez réalisé vos gains et du taux de ces 10 prélèvements sociaux à la dite date. Hein. Donc, pour tous les gains, ça, c'est ce qu'on appelle en taux historique. Ça, c'est pour les gains réalisés avant le 1er janvier 2018. Pour les gains réalisés après le 1er janvier 2018, le taux de prélèvements sociaux qui s'applique, c'est le taux au moment du retrait, donc 17,2% aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que si vous voulez le calculer vous-même, il faut connaître la date de le montant de votre plan à chaque fois que le taux de prélèvement social a changé. Bon, c'est l'enfer. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'il n'est pas possible d'optimiser ce montant. Hein, vous voyez, vous êtes dans une émission de conseils pratico-pratique et au revenu, on aime bien être pratique aussi. Mais là, franchement, il n'y a pas d'astuce.
Donc, pas de fantasme.
Il n'y a pas de fantasme. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que si votre plan est globalement en perte, hein, c'est-à-dire que le montant du capital en compte aujourd'hui est inférieur au montant total de tous vos versements, qu'il n'y a pas eu de retrait entre-temps, ben, vous ne payerez pas de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est relativement rassurant. Pour le reste, dans l'idéal, ben, il faut demander une simulation et bien comprendre que dans chaque retrait, quand vous retirez un petit peu d'argent d'un PEA, il y a une partie du capital, donc une partie des versements et une partie des gains réalisés. C'est pas parce que vous allez vendre aujourd'hui un titre en perte dans votre PEA et demain effectuer un retrait que vous n'allez pas payer de prélèvements sociaux sur votre gain. Voilà, c'est un vrai sujet, hein, les prélèvements sociaux sur un PEA, notamment en cas de clôture de PEA, ça peut se monter en milliers, voire en dizaines de milliers d'euros. Donc, ne pas hésiter à demander des simulations, mais c'est difficile d'y échapper, malheureusement.
Question d'Éric, qui vient de vendre sa résidence principale et le prêt qui était attaché à cette résidence était à 0,65 taux variable hors assurance. Et il se demande s'il est obligé de le rembourser. Oui, on imagine qu'il voudrait bien le garder.
Alors voilà, Éric, c'est un petit malin. Il a un taux canon, donc un taux qui a été négocié il y a quelques années. Là, il vend son logement et il se dit, bah, tiens, je vais garder et je vais vendre mon logement. Et puis, avec l'argent qui me sera versé sous mon compte, je vais éventuellement le placer et puis je vais rien dire à la banque. Alors, il faut savoir que c'est totalement illégal. En fait, un prêt immobilier est attaché à un bien. Si vous vendez le bien, vous devez rembourser le capital restant dû à la banque.
Certains crédits étaient transférables.
Alors, mais ça, c'est encore autre chose. Et ça, c'est dans le cas où Eric, dans la foulée, il rachèterait un autre bien. Mais là, il faut absolument que la banque soit informée. Et oui, le bien, dans ces cas-là, peut être, s'il a eu un bien, s'il rachète dans la foulée et que, comme il a négocié il y a quelques années un prêt à un taux canon, il peut demander la transférabilité de ce prêt sur un nouveau bien.
D'accord, okay.
Bon, il ne faut pas se leurrer, comme la banque ne fera pas une belle affaire là-dessus, elle se rattrapera sur le prêt complémentaire. Mais enfin, ceci dit, alors pour revenir à la réponse d'Éric et à sa question, il y a deux cas de figure en pratique. Soit il y a une hypothèque qui a été adossée au bien. Et dans ces cas-là, le notaire doit, pour lever l'hypothèque, elle va informer la banque et il n'aura pas d'autre choix que de rembourser son crédit. Soit il n'y a pas eu d'hypothèque parce que la garantie a été accordée par un organisme de type caution crédit. Dans ces cas-là, la banque ne sera pas forcément averti de la vente du bien. Ceci dit, je le répète, le prêt est lié à un bien et donc il doit être remboursé. Alors c'est vrai que pourquoi on a cette question, parce que bon, le taux étant très faible, on imagine bien qu'effectivement si vous placez donc l'argent que vous devez à la banque, ben vous pouvez l'espérer un taux de rendement supérieur et vous encaissez la différence. Mais c'est surtout que si vous remboursez un prêt par anticipation, c'est vous n'avez pas pris soin de négocier l'absence de pénalités en cas de remboursement anticipé, vous allez payer les pénalités. Voilà. Donc c'est bien vu, Eric, mais attention, vous êtes en dehors des clous.
Allez, question de Martin qui a 400 000 euros investis à 50% en assurance vie et à 50% assurance vie en euros, on précise, et 50% en or, et il voudrait votre avis.
Alors, La question est intéressante, mais j'ai du mal un peu à comprendre cette répartition 50-50.
Qui a amené à...
Voilà, à cette 50. Alors, pourquoi la question est intéressante? Parce qu'il pose une question fondamentale qui est la question de la répartition, en fait, de son épargne. Les professionnels parlent d'allocation d'actifs entre les différentes grandes familles de placements. Donc là, il y a les matières premières, et puis il y a les placements sans risque, l'assurance vie en euros, on aurait pu rajouter les actions, etc. Et il faut savoir, mais ça on en reparlera tout au long de cette année 2022-2023, que choisir la performance de vos placements dépend bien sûr du choix des titres, du meilleur contrat, du choix du contrat d'assurance vie, du PER que vous allez sélectionner avec soin, mais ça dépend surtout, la rentabilité de vos placements dépend de ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, c'est-à-dire la répartition de votre épargne entre les différentes familles de placements. Et donc assurance vie, placement sans risque, matières premières et or. Et là, c'est vrai que l'allocation de Martin, bah, c'est un peu une allocation un peu entre guillemets tordue. C'est-à-dire d'un côté, il a un placement sans risque, assurance vie en euros. De l'autre côté, quelque chose de quand même de très spéculatif, les matières premières. On est très loin de la répartition idéale recommencée par le revenu, hein, puisque c'est plutôt 5% d'or.
Pour le reste,
la stratégie.
Qu'est-ce qu'il faut? Il faut rééquilibrer.
Et surtout, il faut investir en bourse. Hein, du recul des marchés et que les coefficients et les valorisations sont moins tendues que ce qu'elles étaient en début d'année. mais pour prendre une ligne, et on ne le répétera jamais assez, la bourse est aussi dans l'assurance vie. Pour les Français aujourd'hui, l'essentiel des investissements boursiers, ça passe par l'assurance vie. Donc l'assurance vie en euros, c'est un peu l'assurance vie à la papille et qui reste d'actualité, parce que vous l'avez remarqué, mon cher Cédric, le meilleur placement de l'année, ça sera certainement peut-être l'assurance vie en euros, avec un rendement autour de 2%. Vous allez me dire, déduction faite de l'inflation, c'est pas terrible.
Ça sera toujours mauvais, mais bon.
Mieux vaut gagner 2% qu'en perdre 15 en bourse, qui est à peu près, à mon avis, la performance du CAC 40 depuis le début de l'année. Voilà. Donc oui, on rééquilibre, vous avez entièrement raison, et on commence à investir en actions. Le revenu n'a jamais été un grand fan du placement en or. D'ailleurs, vous remarquez, c'est pas parce qu'il y a une multitude d'incertitudes géopolitiques, financières, économiques que l'or bondit, l'or stagne. Ouais. Je dirais, l'or valeur refuge peut-être.
On est à 1724 dollars.
Ouais, si vous êtes très inquiet, alors si vous regardez l'évolution du cours du lingot en euros depuis le début de l'année, vous êtes dans le vert, autour de 10% de mémoire, mais c'est tout simplement parce que le dollar, la monnaie dans laquelle est cotée l'or, s'est fortement revalorisé par rapport à l'euro. Donc oui, des décisions à prendre, réduisez le poids de l'or, Martin, et si vous appliquez la stratégie 60-40 du revenu, c'est plutôt ramener la part de l'assurance vie en euros à 40% et investissez dans des fonds en actions, ce qu'on appelle des fonds purs. Hein. Attention avec les fonds diversifiés aujourd'hui, actions et obligations, parce que les obligations n'ont pas joué leur rôle de coussin d'amortisseur depuis le début de l'année. Ils ne joueront sans doute pas ce rôle non plus dans un avenir proche. Donc c'est pour ça que le revenu recommande plutôt l'assurance vie en euros. Vous profitez d'une garantie sur le capital, avec sans doute une remontée des taux dès cette année. Mm-hmm. Hein. Donc plutôt une bonne nouvelle d'un côté, un placement sans risque, avec une garantie de l'assureur. Donc pas de mauvaise nouvelle a priori de ce côté-là. Et puis de l'autre, un placement en action à potentiel pour le rendement. Et c'est objectif de 60-40, 60% sans risque et 40% je dirais bon. Placement dynamique, vous pouvez espérer un rendement autour de 4-5% dans la durée.
Allez, il nous reste 2 minutes pour répondre à Gérard. Que se passe-t-il si le détenteur du compte de mon PEA fait faillite?
Gérard, il est inquiet. Gérard, il a peut-être surfé sur Internet, il a vu des propositions attrayantes de courtiers qu'il ne connaît pas trop et il se dit, si j'y vais pour des raisons tarifaires, que se passera-t-il si cet intermédiaire met la clé sous la porte? Alors, il faut savoir qu'un PEA, vous le répétez régulièrement et sur le revenu aussi, vous avez ce composé à la fois d'un compte espèce et d'un compte titre. Le compte espèce, il est garanti par le fonds de garantie des dépôts à hauteur de 100 000 euros par déposant et par banque. Et quant au compte titre, il y a également une garantie des titres, mais à hauteur de 70 000 euros. Alors là, sur les titres, il faut rassurer votre auditeur téléspectateur parce que les titres, a priori, ils vont pas s'envoler, hein, sauf malversation, ils sont pas la propriété de la banque.
Si demain vous juste investissez, dépositaire.
Voilà, si demain vous investissez dans les titres en direct ou par l'intermédiaire d'un fonds d'investissement, les parts du fonds d'investissement vont demeurer. Il n'empêche qu'il existe un fonds de garantie des titres. On le répète, hein, en cas de faillite d'un établissement bancaire, je dirais le scénario le plus probable, c'est la reprise par un concurrent qui, bien sûr, reprend l'ensemble des engagements de l'établissement qui a fait faillite. Et donc, le recours au fonds de garantie des dépôts et des titres est un cas extrême. Et voilà un petit peu pour la mécanique et la réponse à votre auditeur.
Christian Fontaine et la rédaction du Revenu répondaient à toutes vos questions. Merci, Christian. Dans un instant, c'est 60 minutes business et Sandra Gandoin. Bonjour, Sandra.
Bonjour, Cédric.
Au programme de ce lundi.
On va parler souveraineté numérique, ce déplacement de Bruno Le Maire à Strasbourg pour la nouvelle inauguration du data center d'OVH Cloud. Il va y avoir des annonces, on sera en direct avec Raphaël Couder dans un instant. Bruno Le Maire qui l'a annoncé, confirmé ce matin, la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui sera supprimée, mais en deux fois au lieu d'une, pour des raisons d'équilibre des finances publiques. On en parlera avec Laurent Vronsky, directeur général d'Hervor. Et puis notre invité nous parlera reconditionnement des appareils électroniques. Est-ce que cette filiale est elle-même vertueuse. On en parlera avec Compas Recycle. Et puis évidemment, on répondra aux questions des auditeurs téléspectateurs à 12h30 avec Lorraine Goumeau.
C'est à suivre et c'est 60 minutes business. Le marché parisien, lui, progresse d'1,2% pour le CAC, 6 286 points. Et moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Très bonne journée.